Nous allons prier pour la parole de Dieu, pour recevoir cette parole, cette sainte parole. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta parole est puissante. Merci parce qu'elle est bonne et parce qu'elle nous parle. Je prie vraiment pour que tu nous aides à creuser, Seigneur, les révélations que tu donnes dans ta parole. À propos du ciel, Seigneur. Parce que nous voulons comprendre un certain nombre de choses dans nos vies spirituelles. Nous voulons être, Seigneur, des enfants intelligents. Mais pas avec une intelligence de ce monde. Pas avec les réflexions de ce monde. Mais avec l'intelligence qui vient du ciel. Parce que Seigneur, tu es supra-intelligent. Tu as la connaissance de toutes choses. Tu connais tout. Tu es omniscient, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier encore ce soir. Pour que tu puisses nous donner une partie de cette connaissance. Et que ce soit une connaissance tellement forte dans nos vies. Que cela puisse nous défier quelque part. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu aides ce peuple à comprendre, à mieux comprendre là où tu le veux, là où il va aller, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes sur ce sujet du salut. Et c'est bien de dire « je suis sauvé ». Mais souvent, les gens disent « bon, ben voilà, on leur pose des questions, on leur dit « tu es sauvé, d'accord, mais ça veut dire quoi ?» Ben, souvent, on dit « ben oui, je suis sauvé de l'enfer ». Et là, ça, souvent, on le comprend assez bien. On va dire, voilà, tu sais, le pécheur, il est perdu. Le pécheur, s'il meurt, il va aller en enfer. Donc, il faut se repentir et accepter Jésus. Bon, d'accord, on parle d'être sauvé, c'est bien. Mais
aussi,
on parle de vie éternelle. Tout le monde dit vie éternelle.
Vie éternelle. Ubuzima budashira.
Amen.
Amen.
Ça veut dire qu'il y a une vie après la vie terrestre, nous le savons. Et vous savez, la Bible dit beaucoup de choses sur ça. Il y a des événements prophétiques par lesquels nous passerons obligatoirement qui sont sur la souveraineté de Dieu. Dieu les a prévus d'avance, on va les étudier. Mais là, ce qui va m'intéresser en partie ce soir, temps de tout terminer, loin de là. C'est, je meurs, je vais auprès du Seigneur. Nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons vu que la Bible atteste clairement que quand un chrétien né de nouveau meurt, sachant que l'homme est en trois dimensions, son être intérieur, esprit et âme, partent, quittent son corps. Son corps, la maison, reste ici. La maison se décomposera. Un jour, Dieu utilisera la semence de décomposition de la maison pour refaire une maison qui sera immortelle. On en parlera. Mais d'abord, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il y a au ciel. Dis à ton voisin, tu vas apprendre quelque chose ce soir. Amen. Amen. Tu vas apprendre quelque chose ce soir. Parce que la Bible va nous dire et nous dit des choses à propos du monde invisible. Donc on va voir ce que la Bible dit. On va voir ce que la Bible ne dit pas. Et nous allons apprendre un certain nombre de choses par rapport à ce que la parole de Dieu nous révèle. Parce que Dieu a voulu nous révéler certaines choses. Sur ce monde invisible, il y a des créatures invisibles. On va voir qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Il y a un certain nombre de visions que nous allons commenter. On va apprendre certaines choses sur ce monde invisible.
Et
on va essayer de mieux comprendre comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous attend. Parce que c'est sûr que c'est bien de dire je suis sauvé, je vais au ciel, mais il y a des gens qui vont nous poser des questions plus précises. Et souvent les chrétiens n'ont pas vraiment de réponse. Ils disent bon ben je vais auprès du Seigneur. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Et c'est quoi là-haut? La Bible nous dit certaines choses. Et vous devez savoir que votre salut va se manifester en plusieurs étapes. Je dis bien, vous êtes sauvés. Et la Bible nous dit bien dans Romains 8. On va relire ce verset, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, Romains 8. Et dans Romains 8, on a quelque chose qui, bon, nous montre qu'on a une espérance. Mais cette espérance, donc, n'est pas pleinement manifestée, parce qu'une espérance, c'est toujours quelque chose de futur. La Bible nous dit que, à partir du verset 18, il dit, Paul dit, Romains 8, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a une gloire à venir.
Il y a
un plan d'éternité. Et vous devez vivre avec les deux perspectives. Il y a une mauvaise perspective qu'on voit très souvent où les gens disent souffrons maintenant, nous avons tous les maux maintenant, nous sommes les pauvres petits chrétiens qui n'arrivent pas à s'en sortir maintenant. Tous les malheurs sont là, le diable est fort, les malédictions sont là, je
ne
sais pas comment on va faire. Vivement le ciel. Ça, c'est une mauvaise perspective. Parce que les gens misent tout sur le ciel. Et puis, il y a aussi l'inverse où les gens disent le royaume de Dieu maintenant, tout doit être là, la destinée, je me concentre seulement sur ça.
Non,
il y a un équilibre entre les deux. Et pendant deux siècles, on a été beaucoup déséquilibrés où on a dit là, sur cette terre, il n'y a que des malheurs. On
ne
peut pas avoir beaucoup de victoires, on a juste à passer ce temps difficile sur la terre. Et puis on sera délivré quand on ira au ciel. Ça, ça a été beaucoup, beaucoup d'enseignements. Beaucoup de chants ont été écrits là-dessus. Et là, on voit une tendance qui s'inverse ces dernières années. Et ce qu'il faut, c'est un équilibre. Dieu a un plan pour le temps présent. Et il a un plan pour l'éternité. Tu dois te concentrer sur le temps présent avec la perspective du plan de l'éternité. Ça, c'est l'équilibre de ta vie spirituelle. Tu dois pleinement réussir ta vie, mais en sachant que de toute façon, tu ne resteras pas ici. Donc, tout ce que tu fais ici, tout ce que tu réussis ici, c'est pour la gloire à venir qui t'est réservée. Donc, ça, c'est toujours un équilibre qu'il faut avoir. Parce que sinon, tu vas te concentrer juste sur ici et tu ne vas pas chercher à savoir, mais finalement, quand je vais mourir, vraiment, dans quoi je vais être. Paul dit, la mort est un gain. Donc c'est clair que là-haut c'est bien meilleur qu'ici. Mais d'un autre côté, Dieu a un plan pour ici. Donc là, on va se concentrer sur le plan éternel de Dieu. Au verset 19, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Donc ici, il y a une partie vraiment où nous, les fils et les filles de Dieu, nous devons révéler le royaume présent. Mais il y a aussi, bien sûr, le royaume futur qui sera révélé. Nous verrons que cette création sera complètement bouleversée. Il y aura une recréation du naturel. Là, Dieu fait une recréation de nos esprits. Il se crée un peuple qu'il recrée spirituellement. Mais un jour, il va recréer tout aussi physiquement. Il va tout chambouler et tout
refaire.
On en parlera. Verset 20, il dit, car la création a été soumise à la vanité, notre son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, le rachat de notre corps. C'est-à-dire que nous puissions revêtir notre corps ressuscité. Et il dit, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc ici, Paul dit bien que c'est en espérance que nous avons été sauvés. Ça veut dire que tu es sauvé, mais la manifestation de ton salut n'est pas complète. La manifestation de ce salut va se passer en plusieurs étapes. D'abord, c'est ton esprit
qui
a été recréé à ta nouvelle naissance. Ensuite, ton âme est en cours de restauration, de reconstruction. Et apparemment, ça se terminera là-haut. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, ton corps aussi. C'est la troisième phase de la manifestation de ton salut. Ton corps sera immortel. Tu dois revêtir un corps immortel.
Donc,
nous allons étudier tout ça.
Mais
ce qui va nous intéresser, c'est ce monde invisible. Qu'est-ce que la Bible, pardon, révèle? Qu'est-ce qu'elle ne révèle pas? Quand on étudie le début de la Bible,
et qu'on
progresse dans sa lecture,
et
que l'on cherche des révélations sur qu'est-ce qu'il y a autour de Dieu.
Bien,
il y a un certain nombre d'éléments intéressants. Quand Dieu a créé Adam et
Ève,
apparemment, on n'a pas l'impression que Dieu va leur inculquer une culture céleste directement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. En tout cas, si Dieu leur a inculqué la culture céleste, dans le sens, leur a montré ce qu'il y avait au ciel, la Bible ne nous le révèle pas. Nulle part on parle du trône de Dieu dans le début de la Genèse. On
ne
parle pas vraiment du ciel même dans la Genèse. Par contre, on sait une chose, il va y avoir des créatures angéliques de très haut rang,
et
nous les dirons, qui vont garder le jardin d'Éden pour qu'Adam et Ève ne reviennent plus dans le jardin d'Éden après leur péché. Mais la révélation du trône de Dieu, la révélation du ciel, eh bien, il va y en avoir une partie qui va être donnée de la part de Dieu à Moïse, donc dans l'Exode. C'est la première fois, apparemment, d'après ce qu'on voit dans la Bible, où un homme va recevoir certaines représentations de ce qu'il y a dans le ciel. Et on va lire ça d'ailleurs dans Hébreux, pardon, chapitre 8, verset 5. Il y a beaucoup de références, donc on va essayer de les mettre un peu en ordre. Il y a quelque chose que Dieu va lui dire qui est très particulier. On va lire à partir du verset 8 de Hébreux chapitre 8. Alors, 8:1
Hébreux.
Alors, or voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceci célèbre un culte qui est une image. Regardez bien ici. Ceci célèbre un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, donc des réalités du ciel. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors on peut lire le verset 5.
Reka somo murongo gatanu ngo kandi abo bakorera igishushanyo canke ibicapo n'igitutu civyo mwijuru nkuko Mose yabwiwe n'Imana agira akoresha rya hema atugira umwete wo gukoresha byose ubigereranye n'ikigereranyo werekewe kuri wa musozi.
Alors il est clair que Moïse semblerait être le premier homme
biboneka ko Mose yoba ari umuntu wa mbere
qui a eu un certain nombre de visions
yoba yaragize ukwerekwa
sur des représentations qu'il devait faire de ce qui existe au ciel
kubijanye n'ingene yari gucapura ibintu biri mu ijuru.
Il a eu certaines représentations
yaragize ibyo yereswe bitari bike.
Il n'a pas eu tout.
Byose ntiyabihawe.
Mais Dieu lui a dit
ariko Imana yaramubwiye
donc de faire ce tabernacle
ngo akore kirya hema.
Tabernacle c'est une tente.
Ni hema Imana yamweretse gukora.
Ici on parle des Israélites qui vont faire un sacerdoce, c'est-à-dire qui vont servir Dieu d'une certaine façon.
Maze ngo abanyisraeli bagira ukuntu batangura gukorera Imana bihwanye n'ingene Imana iberetse.
Il va y avoir ce qu'on appelle des sacrificateurs qui vont être établis.
Hatangura gushigwaho abaherezi.
Et le sacrificateur son rôle
kandi umuherezi gikorwa
ciwe c'était de représenter le peuple
kwaruko aserukira ihanga imbere y'Imana.
À partir du moment où on entre dans l'Exode
et
que le peuple d'Israël sort donc de l'Égypte, il va y avoir une manifestation de la présence de Dieu. Et Dieu va commencer à se révéler à son peuple au travers entre autres de Moïse qui sera l'instrument principal de cette révélation. Et en fait, on s'aperçoit que Dieu va révéler un certain nombre de choses, va donner un certain nombre de visions à Moïse. Et particulièrement quand il va faire cette expérience sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, c'est ce dont ce texte parle ici. Dieu lui dit, fais ce que tu as vu. Donc quand Moïse va dire aux ouvriers de travailler pour faire tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur du tabernacle,
lieu
saint, lieu très saint, il va y avoir un certain nombre d'ustensiles que Dieu lui dit de faire en or. Il y a des chandeliers, il y a des coupes,
il y a des coupes,
il y a toutes sortes de choses qu'il va y avoir dans le lieu saint, mais aussi dans le lieu très saint. Le tabernacle était divisé en deux parties. Donc, lieu saint, lieu très saint, et c'était séparé par un voile. Et une fois par an, seulement, le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans la partie du lieu très saint, offrir un certain nombre de, avec un certain nombre de sacrifices, offrir du sang,
et
il faisait l'expiation pour tous les péchés du peuple de l'année. Les Israélites encore célèbrent cette fête qu'ils appellent le Yom Kippour. Et en fait, à l'intérieur du lieu très saint, dont justement Dieu lui parlait à Moïse, lui expliquait un certain nombre de choses,
il
lui avait montré un certain nombre de visions,
il va y avoir
un certain nombre de choses. Et là, c'est juste là où il va y avoir la présence de Dieu qui va se manifester. N'importe qui rentrait dans cet endroit était foudroyé par la mort directement. C'est la première fois où Dieu va donner à des hommes de décrire quelque chose de céleste, d'en faire une représentation sur la terre. Les Israélites avaient en particulier une représentation de deux êtres spirituels, angéliques, de très haut. On va lire ça dans l'Exode chapitre 25. C'est là où Dieu, d'une façon incroyable, il va donner un certain nombre de visions et de représentations. Donc. Et c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, Dieu dit, c'est une représentation de choses célestes. Donc, représentation de choses célestes. Avec un symbolisme, bien sûr, mais aussi avec un certain nombre d'êtres.
n'ibintu by'ibintu biseruke bimenga ni ibinyabugingo
particulièrement ce que nous allons voir des chérubins
cyane cyane ibinyabugingo bita abakerubi.
On va lire à partir du verset 10, je vais lire en français de Exode chapitre 25. Et il est dit, ils feront, donc les ouvriers feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. 2 coudées, ça fait environ 1 mètre. Et de, pardon, 2 coudées et demi, 1 mètre 25 à peu près. Sa largeur d'une coudée et demie, ça fait 75 cm. Et sa hauteur d'une coudée et demie, donc à peu près 75 cm. Tu la couvriras d'or pur. L'or, ça a toujours représenté la gloire de Dieu. C'est un symbole ici. À l'intérieur et à l'extérieur. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu mettras à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras des barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et elles n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Au verset 17, le propitiatoire, c'était simplement un couvercle. C'est ça que ça voulait dire. En fait, Dieu lui disait, tu vas faire une sorte de caisse, tu vas faire un coffre. Ce coffre, d'ailleurs, aura des pieds, bien sûr. Il lui dit, tu feras des anneaux à chaque coin. Et tu vas mettre un couvercle. Ce couvercle s'appelait le propitiatoire.
Propitiatoire.
Et en fait, ce couvercle, ça va être juste là où Dieu manifestait sa présence. La gloire de Dieu était juste à cet endroit-là. Quand tout le peuple d'Israël observait de loin le tabernacle, ils voyaient une clôture où il y avait les piliers. Et c'était une clôture qui était faite avec un certain nombre de matériaux, de tissus. On n'avait pas le droit d'entrer comme ça à l'intérieur. Il y avait des sacrificateurs à l'intérieur. Et il y avait de quoi faire la purification, de quoi offrir les sacrifices, le feu, etc.
Et
il y avait aussi, donc, au milieu de cet endroit-là, la tente. Le tabernacle. Et de loin, le peuple d'Israël pouvait observer la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Qui était évidemment une représentation de la gloire, de l'onction divine. Qui était situé juste au-dessus de l'arche de l'alliance, au-dessus du propitiatoire.
Coffre.
Et du couvercle du coffre. Je vous explique ça parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu plus tard dans d'autres visions. C'est exactement là où il y avait la gloire de Dieu qui était manifestée. Et les Israélites pouvaient voir ça de loin. Quand la nuée se levait, la gloire de Dieu se levait d'au-dessus du tabernacle, ça voulait dire que le peuple d'Israël, que ce soit le jour ou la nuit, ils devaient se préparer à partir. C'était le signe, parce qu'ils suivaient la gloire de Dieu. Alors, ici, Dieu va lui donner quelque chose d'étonnant à sculpter, il va lui décrire 2 êtres. Donc, au verset 17, il dira, tu feras un propitiatoire d'or pur, donc un couvercle d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie. Donc, il doit se poser juste sur le coffre. Tu feras, regardez bien verset 18, tu feras 2 chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire, tu les feras d'or battu. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins, alors donc, on va lire ça en Kirondi, 18 et 19, s'il te plaît.
Kuri cumi n'umunani ngo kandi uzukore abakerubi babiri mu izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongera ko ubakoze mu buryo bwo gucura 19 kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe undi abe mu wundi kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongera ko mu mitwe yawo yompi babe kimwe nawo.
Et après il va décrire un certain nombre de choses sur les chérubins.
Munyuma racabandanya avuga ibintu bitari bike kujana n'abakerubi ariko aravuga ngaha.
Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, donc rappelez-vous le couvercle. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche, et tu le mettras dans l'arche. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, et je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Donc ici, on voit que Dieu lui donne un certain nombre de choses, de descriptions sur ces chérubins. Rappelez-vous, et ça va être en fait Hébreux 8, 5, en fait, c'est une citation du verset 40 d'Exode 25.
Urumva rero abahebureyi hariya twasomye ni kusubiramo umurongo wa 40 waha kuva yo 25.
Dieu lui dit, lui donne la description du chandelier, lui donne la description de différents ustensiles.
Imana imwereka bijya byo gushira kwa matara, ibikoresho bitandukanye byo gukoresha mu ihema.
Et au verset 40, il lui dit cette parole qui est répétée, je vous dis dans Hébreux 8, 5, regarde puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Umurongo wa 40 rero ngaha kuva yo 25 guzugira umwete wo kubikoresha ubigereranije n'ikigereranyo.
Donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Moïse est sur la montagne. Et Dieu lui parle. Il va lui donner toute la loi. Et il va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Et Dieu lui dit, tu vas faire, regarde bien. Parce que tu vas faire exactement ce qui t'est montré
maintenant.
Donc, Moïse avait une succession de visions où Dieu était en train de lui montrer un certain nombre de choses célestes pour qu'il puisse les reproduire et les amener au peuple d'Israël. Représentation de choses célestes sur la terre. Rappelez-vous que Dieu condamne totalement l'idolâtrie. Dieu condamne tout ce qui peut être image.
Et
où l'homme se prosterne devant ses images et les idolâtre. Mais Dieu a donné ici à Moïse des représentations. Non pas pour l'idolâtrie. Mais des représentations d'êtres qui sont dans le ciel. Des êtres célestes de très haut rang. Sa présence même sera manifestée au milieu. Alors des chérubins. On va faire un petit voyage dans la parole de Dieu pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé par là volontairement. On va étudier des visions du ciel. Les gens qui sont donc qui donnent témoignage dans la parole de Dieu sur ce qu'ils ont vu du ciel pour que nous puissions comprendre certaines choses. Là, Dieu ne lui avait pas, n'avait pas amené Moïse au ciel, mais il lui avait montré, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il lui a montré une succession de visions sur des choses qui existent au ciel.
Rappelez-vous,
la Bible est très claire, une représentation des choses célestes, une représentation. Donc, il y a obligatoirement un certain nombre de choses que nous allons retrouver au ciel que Moïse a vu. C'est évident. Parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Alors les chérubins, où est-ce qu'on les voit apparaître?
Eh
bien, la première fois où vous voyez des chérubins apparaître, on en parle dans la Bible, avant même de parler du trône de Dieu, on en parle dans Genèse 3. Ce terrible passage où l'homme créé à l'image de Dieu, avec la gloire de Dieu. Voyant l'homme qui voyait à la fois le monde spirituel et le monde naturel, l'homme qui avait toute tout l'aval de Dieu, toute l'autorité divine pour régner sur la terre, l'homme va tout gâcher. Quand Adam et Ève vont pécher, le monde invisible va être voilé comme il est voilé pour vous et moi. Adam et Ève étaient créés parfaits. Ils voyaient les anges. Ils voyaient les archanges. Ils voyaient tout ce que Dieu pouvait vouloir leur montrer. Tout ce qui était proche d'eux. Je vous rappelle que c'est pour ça que Satan s'est déguisé. Il ne s'est pas incarné dans un serpent. Parce que de toute façon, ça aurait servi strictement à rien. Parce qu'Adam et Ève voyaient dans le monde spirituel comme dans le monde naturel. Et d'autre part, Satan n'a pas la puissance de pouvoir s'incarner. S'il le faisait, s'il avait eu la capacité ou le pouvoir, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc là, on va voir que quand Adam et Ève vont pécher, Dieu les sanctionne. Dieu prononce des malédictions sur eux. Conséquence de leur désobéissance, de leur péché. Ils se retrouvent avec la nature pécheresse en eux, séparés de Dieu. Mais pour l'instant, ils sont dans un monde divin. Et comme il n'y avait pas de rédempteur, eux, ils ne pouvaient pas chanter « Mon rédempteur vit ». Non, parce que Jésus n'était pas encore venu. Ils ne pouvaient pas le chanter. Parce que ce n'était pas une réalité. Dieu allait leur promettre qu'il amènerait quelqu'un d'humain qui écraserait la tête du serpent. Donc, l'autorité spirituelle de Satan. Ça, c'était promis. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va être obligé de les chasser du jardin. Regardons ensemble, juste après que tout soit prononcé, Dieu leur fait des habits de peau. Verset 21, l'Éternel Dieu, et Genèse 3, fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Lis ça, s'il te plaît.
« Guhoraho Imana, umurongo wa 21, arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato, arabambika, Uhoraho Imana aravuga, ateho uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe, kuvyo kumenya ikibi n'iciza n'ikibi. None rero Yehova atuma ukuboko akamura kuri cya giti cy'ubuginga kajya akazokwamaho ibihe bidashira. Nico catumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivyo yavuye iyo ivu yakuwemo.
On voit ici l'arbre de vie. On en reparlera de l'arbre de vie. Un certain nombre d'êtres humains ont eu des représentations de ce qu'il y a dans le ciel. Et en fait, ici, Dieu ne voulait pas qu'il retourne vers l'arbre de vie parce que c'est un arbre qui procure la vie spirituelle. On en parlera un peu plus tard. On le retrouvera bien plus tard, cet arbre. Tout à la fin du livre.
Et
en fait, ce qui se passait ici, c'est que si jamais ils prenaient de ce fruit, qu'ils en mangeaient, eh bien, ils auraient eu la vie à nouveau spirituelle. Mais sans passer par quelqu'un qui allait les racheter. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça, c'était pas acceptable parce que c'était une violation du droit spirituel.
Ça voulait
dire quelqu'un, un être spirituel qui aurait péché,
aurait pu,
en mangeant un fruit, à nouveau avoir la vie spirituelle. Nous avons eu la vie spirituelle parce que quelqu'un est mort pour nous. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et que pour être pardonné, il y a une loi spirituelle qui est établie par Dieu et qui veut que quelqu'un meure, une vie soit donnée.
akoze icyaha hari ubuzima bubanza gutangwa kugira ngo ashobore gukira.
Et là, ça aurait été une violation totale.
Urumva hari itegeko ngahari ari kuba rirenzwe ko.
D'une loi spirituelle établie par Dieu.
Rihonyanzwe itegeko ryashyizweho
n'Imana. Et donc Dieu n'a pas pu permettre cela.
Urumva Imana ntibyashoboka kwivyemera.
C'est pourquoi Dieu va faire la chose suivante.
Nico gituma Imana yacikora iki kintu.
Verset 23, il est dit l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Ngo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iyo tongo byo muri Eden ahashira abakerubi bo n'inkota yakumuriro itanga tanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri ca giti c'ubugingo.
Donc ici on voit qu'il y a des chérubins.
Alors batwereka ko hari ibi abakerubi
qui vont garder l'arbre de vie.
Bazigamye bateramiye ico giti c'ubugingo.
On voit d'abord un rôle donc apparaître ces êtres angéliques.
Ubwa mbere turabona ubwa mbere batwereka abo bakerubi.
Donc on sait très bien qu'Adam et Ève les ont vus quelque part.
Turabona yuko Adam na Eva ngira barababonye.
Je ne sais pas s'ils les ont décrits, certainement qu'ils ont décrit ces choses à tous leurs descendants.
Ndibaza ko baba barabwiye ibyo bintu abo bavyaye bose urubyaro rwabo rwose.
Adam et Ève étaient les seuls qui avaient vu le monde invisible.
Nibo bari barashobora kubona isi itaboneka.
Et ce monde invisible qui fait tout le temps un aller-retour entre le ciel et la terre.
Kandi yo sitaboneka igihe cyose yamigenda iboneka igaragara hagati y'ijuru n'isi.
Moïse, lui, il va avoir une description des chérubins.
Mose nawe yararonse igwishurirwa ko abakerubi.
Parce que Moïse était comme nous.
Kuko Mose yarameze nkatwe.
Avec ses yeux de chair, il n'aurait pas pu voir les chérubins.
Yarafise amaso nkayacu ntiyashobora kubona abakerubi mwisi impwemwe.
Tel quel.
Uko mu buryo busanzwe niko
novuga. Dieu lui a donné des représentations.
Urumva Imana yacimwereka.
Tu vois comme ça.
Ibintu biserukira abakerubi.
Voilà ce que tu dois représenter.
Iravuga iti raba icyo uzoshira ku isi nawe ngene kizoba kimeze.
Alors au début de la Genèse, c'est tout ce qu'on sait.
Vous
voyez dans la Genèse, on voit que Dieu parle à des gens. Il agit avec certaines personnes. On
n'a
pas une grande révélation.
Bon,
par exemple, il y a Jacob qui va faire cette expérience.
Dans
Genèse 28. Où il va avoir une vision. Un rêve. Un songe
inzozi,
à propos d'anges. C'est la première fois où la Bible nous en parle. On a Abraham qui a vu des gens, bien sûr, et il ne savait pas que c'était des anges. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans son sommeil. Et il va voir. Dans son sommeil, il va voir un songe. Un rêve inspiré. Il est dit au verset 10, Genèse 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il les plaça sous sa tête. Et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront béni en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Donc, on voit ici que Jacob va avoir une certaine révélation. Il a vu des anges. Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il a vu Dieu? Est-ce qu'il a vu un trône? Apparemment, la Bible ne le dit pas. Donc petit à petit, il va y avoir d'autres visions de la parole de Dieu. Dans Exode 17, verset 16, là, il va y avoir une mention pour la toute première fois du trône. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel. Il y aura la guerre contre l'Éternel, de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération.
C'est
la toute première fois
où il y a la mention
du trône.
Bavuga intebe y'inganji y'Imana, Imana ibyagiye.
Toute première fois.
Niho honyene babivuga.
Mais après, la Bible va nous donner révélation sur révélation sur révélation.
Ariko munyuma bibiliya ikigane duyishurira ukundi guhishurwa twakoronka ukundi guhishurwa.
Il faut que vous compreniez une chose.
Ariko no gutahura ikintu kimwe.
La Bible est une révélation progressive.
Bibiliya mujya yerekana ibintu bigenda biratera imbere byishura.
Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous en connaissons beaucoup plus aujourd'hui sur qui est Dieu, l'environnement de Dieu au ciel.
Bisobanura ngo uyu munsi tuzi byinshi kubijanye n'iby'Imana.
Que tous ceux qui étaient dans toutes les autres alliances.
Kurusha abandi bose babayeho kera.
On va découvrir cela petit à petit. Ensuite, on va voir que certains ont des visions, ont eu des visions dans l'Ancien Testament. Bon, d'abord, ils ont certaines révélations à propos du trône de Dieu. Ça devient plus précis dans les psaumes. Par exemple, dans le psaume 9, verset
5,
c'est David.
Ahani David.
David était prophète.
David yari umuvugishwa.
Et il a reçu un certain nombre de visions et de révélations, c'est très clair.
Kandi yaronse uguhishurirwa kutari guke n'ukwerekwa kutari guke.
Au verset 5, il dit car tu défends mon droit. C'est peut-être au verset 4 en qui on dit, il faut peut-être voir. Et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge.
Ni ku murongo wa kane mu kirundi ngo wamagarikiye mu manza zanje no mu miburano yanje uvyagiye ku ntebe uca imanza zibereye.
Donc là, on voit qu'il y a une révélation du trône de Dieu
encore.
Et David, plusieurs fois dans les psaumes, va nous parler du trône de Dieu.
Psaume
11,
verset
4, il est dit, c'est encore de David, là, ce psaume, l'Éternel est dans son saint temple. Tiens, on nous parle d'un temple ici. L'Éternel a son trône dans les cieux, le trône.
Guhoraho ari mu rusengero rw'uwo gwera guhoraho intebe yiwe iri mwijuru bavuga urusengero bakavuga intebe yuhoraho.
Oui, on ne parle plus de Dieu dans le désert, dans le tabernacle. On commence à avoir une révélation qui prend forme quelque part. On parle de Dieu sur un trône dans le ciel. On a eu quelques révélations sur des êtres angéliques. Mais plus on avance dans la Bible, plus on va commencer à parler de Dieu qui trône dans les cieux, donc qui est assis sur un trône. Donc, de plus en plus.
Psaume 45.
Donc là, dans les psaumes, vraiment, on voit cette révélation de plus en plus qui devient évidente.
45,
verset 6. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, un certain nombre de révélations sur cela. Trône, ciel, Dieu. Et puis, là, on va voir des prophètes qui vont commencer à avoir des visions. Dieu va leur donner des visions sur le ciel. Des visions qui vont être relativement limitées. Et puis, plus nous allons aller dans le Nouveau Testament, plus on va avoir une description du ciel. Et on va commencer à voir aussi que dans les visions de l'Ancien Testament, on ne parle pas de gens qui étaient autour du trône de Dieu ou qui étaient au ciel. C'est seulement quand Jésus va faire son sacrifice à la croix, toutes les révélations que nous allons avoir après dans la Nouvelle Alliance vont nous montrer qu'il y a des gens qui habitent au ciel. Et ça, c'est une nouvelle révélation. Donc, par exemple, il y a le prophète Ésaïe qui va recevoir une vision.
Ésaïe
6.
Et
lui, il va nous décrire certaines choses. Mais nous allons voir que ce n'est pas lui qui a reçu la vision où il décrit le plus de choses sur le ciel. Il est dit, chapitre 6, verset 1, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Ce n'était pas la fumée de charbon de bois, hein, d'Amakara, là. C'était la fumée, c'est le symbole de la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et c'est vrai, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais un des séraphins vola vers moi, se tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Donc imaginez-vous cette vision que le prophète Isaïe
reçoit.
C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle révélation qui s'ajoute. La Bible va ajouter des éléments de révélation qui vont mieux nous faire comprendre un certain nombre de choses. Ces révélations, donc, au départ, on ne sait pas. Dieu trône et ciel, on ne comprend pas bien.
C'est pas
quelque chose qui est là.
Qu'on voit clairement
dans la parole de Dieu. Mais petit à petit, ça commence à prendre forme. Et puis, Esaïe, lui, vraiment, commence à décrire quelque chose. Il voit le Seigneur assis sur un trône et les pans de sa robe. Tiens, Dieu a une robe. S'il y a un garçon à côté de toi, tu dis, t'es dans le péché parce que tu n'as pas de robe. Donc, il y a cette révélation. On voit des êtres. Et apparemment, c'est quelque chose où, waouh! Quand Esaïe voit ça, il dit, malheur à moi! Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui émane du trône de Dieu. Il y a une gloire qui vient et qui ça choque complètement. Dans le sens, en gros, il dit, malheur à moi, je suis cuit, je suis foutu, je vais mourir. Il y a la révélation de la gloire.
Mais
moi, je sais que je suis pécheur. Pourtant, imaginez, c'est un prophète. C'est un prophète, imaginez-vous. Donc, il connaît Dieu. Il est utilisé par Dieu.
Et
d'un seul coup, lui-même, quand il a cette révélation du trône de Dieu, il est effrayé. Parce que la gloire de Dieu est tellement forte. Il arrive à décrire ce qu'il voit. Donc, sur le trône de Dieu, il y a la gloire, il y a aussi des êtres. Et là, on s'aperçoit que ce ne sont plus des chérubins, mais on les appelle des séraphins. Encore une nouvelle révélation. Il va y avoir un autre prophète qui va recevoir des révélations, c'est Ézéchiel. Et là, Ézéchiel, franchement, si vous voulez voir comment l'onction travaille sur quelqu'un, particulièrement dans l'Ancien Testament, lisez Ézéchiel. Ézéchiel est celui qui a reçu le plus de révélations de visions sur les choses célestes. Il a vécu des expériences assez effrayantes. Il a été littéralement transporté en esprit à Jérusalem. Il a vu des choses d'abomination que Dieu a révélées. Il a vu la gloire de Dieu au 6e siècle avant Jésus partir de Jérusalem. Le temple. Cette gloire n'est jamais revenue. Elle reviendra dans la personne du Messie quand le Messie viendra régner à 1000 ans à Jérusalem.
Mais
il l'a vu alors qu'il n'habitait pas à Jérusalem. Il faisait partie des captifs.
Hein,
qui étaient en Mésopotamie, très loin.
Mais
il était transporté en esprit.
ariko araterwa muri mpwemo
atwawe. Ezekiel a vécu les choses dans l'esprit très fort.
Hari ibintu bikomeye cyane yacemwe mu buryo bw'impwemo Ezekiel.
Amavuta
yaramugiye k'inshuro nyinshi cyane. Mu buryo butangaje rwose.
Il y a des gens qui parfois sont étonnés de certaines manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui.
Hari n'abantu batangara uyu munsi hagiye ibintu bigenda birababa
bijya no hino byamwe mugera.
Ariko Ezekiel we hari byabayemwo.
Absolument effrayant. Il était même très effrayé.
Biteye mbere n'ubwoba cyane.
Et la première chose qu'il va voir, c'est le trône de Dieu. C'est la première vision qu'il nous rapporte. Et on va comparer cette vision d'Ézéchiel. On va commencer à la voir ce soir. Ensuite, les prochaines fois, nous verrons la vision de Daniel. Et puis, nous allons aller après dans le Nouveau Testament en regardant les visions que Jean a reçues. Et nous allons commencer à rapprocher ces choses. Pour petit à petit essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a
dans le ciel.
Là où nous allons aller. Là où nous allons passer un certain temps. Nous découvrirons que le ciel n'est pas la finalité pour les chrétiens.
Nous ne passerons
pas l'éternité au ciel. Beaucoup de chrétiens disent, oh Seigneur, merci, je vais passer l'éternité au ciel. Non, tu ne passeras pas l'éternité au ciel. Tu vas ressusciter. Tu vas revenir ici pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et après, il y aura une dernière petite bataille finale. Entre guillemets, petite bataille. Je dis petite bataille parce qu'on va gagner. Donc, on va écraser tout le reste, tout le ramassis de ceux qui seront... Le ramassis de rebelles qui restera à l'époque.
Le
rebelle à Dieu. Et on verra ce que Dieu va faire et là où finalement nous serons. Mais rappelez-vous que le ciel, pour l'instant, est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Donc il
n'y
a que ceux qui sont seulement des êtres spirituels qui peuvent aller au ciel. Nous, tels que nous sommes faits actuellement, avec ce corps mortel de péché, mon frère, on a un corps mortel de péché.
Vraiment.
Ça, c'est ce qui nous empêche d'aller pour l'instant au ciel. Mais le jour où cette maison va s'arrêter de fonctionner biologiquement, c'est justement là, c'est ce qui va nous permettre d'aller vraiment au ciel. De voir les réalités qui nous sont décrites dans la parole de Dieu. Alors, on va juste lire ce texte ce soir. Et vous allez voir, il va recevoir une vision qui est un peu effrayante. Rappelez-vous, Ésaïe, il est là.
Et
il dit oui, la mort du roi Ozias, Ésaïe.
Et ça, vous avez vu,
la mort du roi Ozias.
Wow,
j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc il va nous dire, il y a un temple là-haut. Il y a un temple là-haut.
Et
il y a des êtres qui sont là et qui volent. Qui ont des ailes. Qui volent. Et là, il se passe des choses. Et quand j'ai eu ça, je me suis écroulé. Et j'entendais ces êtres dire Saint, la terre est remplie de sa gloire. Là, Ézéchiel.
Ézéchiel, nawe.
La 30e, verset 1, chapitre 1. La 30e année, le 5e du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. J'eus des visions divines. Le 5e du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim. Je vous rappelle que le peuple d'Israël ayant tellement désobéi au 6e siècle avant Jésus, que Dieu a eu dû envoyer les jugements, le jugement qui était la malédiction de la loi, c'est-à-dire que les ennemis allaient prédominer.
Verset 3,
il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, donc en Mésopotamie, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui, c'est-à-dire l'onction de Dieu est descendue sur lui. Je regardais, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux. Regardez bien ça, ok ? Dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, quatre visages, imaginez-vous. Et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes et à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se détournaient pas en avant. Mais chacun avançait droit devant soi. Quant à l'apparence de leur face, de leur visage, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, et ne se détournaient pas en avant. L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté et du feu sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici qu'il y avait une roue à terre à côté des animaux, devant leurs quatre faces. L'aspect de la structure de ces roues avait l'éclat de la chrysolite. Et tous les quatre avaient la même apparence. Leurs aspects, leur structure étaient telles que chaque roue paraissait au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient, elles avançaient de leurs quatre côtés et ne se détournaient pas en avant. Leurs jantes, d'une dimension formidable, ah, les messieurs, vous aimez les voitures, leurs jantes, tous les quatre, étaient remplies d'yeux tout autour. Et quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, dans le sens du vent. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes de chaque animal apparaissait une étendue céleste, qui avait l'éclat d'un formidable glacier qui s'étendait au-dessus de leur tête. Sous l'étendue, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils avançaient, pareil au bruit de grosses eaux. Et la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Et quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête. Il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Ah ! Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu et une clarté autour de lui, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sous la puissance de Dieu, sous-entendu, la face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, ou littéralement sur moi, il me remplit si vous préférez, et m'a fit tenir sur mes pieds, et j'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est moi qui t'envoie vers l'Israélite, vers une nation en révolte, etc. etc. » Donc imaginez-vous, tout ce chapitre
1,
quand vous lisez ce texte,
vous
voyez bien que le prophète a du mal à quoi faire, à décrire ce qu'il voit. Il essaye de nous décrire par tous les moyens ce qu'il voit, de ces êtres qui ressemblent à des animaux, qui ont des ailes, qui ont des roues, dans les roues les unes sont dans les autres, les roues ont des yeux, il n'a pas dit les pneus, hein. Ça c'est toi qui rajoutes, Seigneur tu as entendu. Donc on il a vraiment du mal à décrire tout ça.
Urumva byaramugoye ngene yobicapura neza ibyo bintu.
Tellement c'est quelque chose qui je dirais n'est pas semblable à ce qu'on peut voir sur la terre.
Ubiravye n'ibintu menga ntibimenyerewe kuboneka ku isi.
Isaïe, lui, il était choqué parce qu'il a eu la révélation du Dieu trois fois
saint.
Ézéchiel, lui, il est là.
Ézéchiel, il
voit un vent qui tournoie.
Et
d'un seul coup, il commence à voir quelque chose de gigantesque. Il le voit du bas jusqu'à une certaine hauteur. Il n'a pas dit qu'il a vu le visage de Dieu. Parce que la Bible dit
qu'on
ne peut pas voir Dieu et vivre dans notre corps. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les gens qui voient Dieu sont obligés d'être ravis en esprit. Ils sont obligés, ils ne peuvent pas être dans leur corps. Et donc là, on voit qu'Ézéchiel a une vision
qui
s'arrête jusqu'à un certain niveau.
Il
décrit jusqu'à un certain niveau.
Il dit
qu'il y a une forme humaine. Il n'a pas dit j'ai vu le visage de Dieu. Il
n'a
pas décrit le visage de Dieu.
Parce
que la Bible nous dit bien qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'Ézéchiel a tellement de mal à décrire cette vision qu'il a reçue. Parce que ça ne ressemble pas à quelque chose. Il aurait pu dire voilà, ces animaux ressemblaient à des aigles avec 4 ou 6 ailes.
Il a dit que c'est un aigle.
Il a pas dit ça parce qu'apparemment ce qu'il a vu c'était pas tout à fait des oiseaux. Il va les décrire comme des animaux, mais il va dire il y a un esprit en elle. Il a du mal à décrire. Dans d'autres visions, on va voir quelques autres descriptions.
Et
on va commencer à retrouver certaines choses que nous voyons dans ces visions, les unes après les autres.
De
ces différents personnages bibliques qui ont vu les choses célestes. Rappelez-vous, Moïse, c'est par lui que ça a commencé. Parmi les hommes pécheurs, où Dieu lui a donné une révélation sur certaines choses qu'il y a dans le ciel et qui lui a demandé de représenter sur la terre et dont nous avons la description assez détaillée dans l'Exode. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera à construire petit à petit pour montrer ce qu'on va trouver dans le ciel. Révélation après révélation.
Bonne soirée à tous.
Mugira mugira mwiza.